divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. C'est avec plaisir que je reçois dans ce studio aujourd'hui deux membres éminents du comité de rédaction de Raison Présente et deux physiciens. Alors, avec moi aujourd'hui, Michèle Leduc, directrice de recherche émérite au CNRS et chercheuse en physique quantique, et Marc Lachiezeray, qui est à la fois astrophysicien et cosmologue. Et nous allons réfléchir aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler l'actualité des trous noirs. Michèle Leduc, je vous laisse la parole pour interroger Marc.
Nous allons parler, je crois, de gravitation, puisqu'on sait que la gravitation gouverne l'organisation du cosmos. Elle fixe les comportements de l'espace et du temps qui sont liés, de la matière et du rayonnement. Bref, dans des situations extrêmes, elle donne lieu à ce qu'on appelle les trous noirs. Ce sont des objets étranges dont les propriétés sont assez contre-intuitives, même pour les physiciens. On est vraiment dans la science. Et est-ce que, Marc Lachiezeray, vous pourriez nous expliquer, mais en termes simples, ce qu'on appelle un trou noir ? Par quoi le caractérise-t-on ? On parle de sa taille, qu'on appelle l'ombre, de sa masse, on dit qu'il tourne ou qu'il ne tourne pas d'ailleurs, et on entend parler beaucoup de l'horizon des événements du trou noir. Qu'entend-on par là ?
Alors, le trou noir, on peut le considérer comme un objet ou bien comme une configuration de l'espace-temps, puisque vous savez sans doute que la relativité générale nous dit que l'espace-temps est courbé, qu'il a une forme. Et le trou noir, c'est une configuration particulière, un endroit où la forme de l'espace-temps est particulière et, comme vous l'avez dit, elle est absolument extrême. La gravitation est tout à fait intense et c'est cette intensité, qui est l'intensité maximale que peut avoir la gravitation, qui donne au trou noir ses propriétés extrêmes. Alors l'idée est assez ancienne puisque ça remonte à peu près à la période de la Révolution française et on attribue la conception de cette idée à deux astronomes, John Mitchell d'une part en Angleterre et Pierre-Simon de Laplace en France qui était plutôt physicien qu'astronome. Et ils ont eu cette idée à partir de la notion de vitesse d'échappement. Alors, c'était quand même très bien vu parce que si la vitesse d'échappement, aujourd'hui, on en a une idée très concrète, c'est-à-dire c'est la vitesse que doit atteindre une fusée, par exemple, pour échapper à l'attraction terrestre, eh ben, il n'y avait pas de fusée à l'époque et donc avoir conçu cette idée de vitesse d'échappement, c'était quand même quelque chose d'assez génial à l'époque. Et chaque astre possède une vitesse d'échappement. Par exemple, pour s'extraire de l'attraction terrestre, il faut atteindre au moins la vitesse de 11 km seconde. C'est beaucoup, c'est pour ça que les fusées ont des gros moteurs pour leur communiquer cette vitesse qui leur permet d'aller dans l'espace interplanétaire. Et Laplace comme Mitchell se sont aperçus que plus l'astre était compact, plus la vitesse d'échappement était élevée. À tel point que pour un objet vraiment très compact, cette vitesse d'échappement pourrait atteindre la vitesse de la lumière. Et dans ce cas-là, si la vitesse d'échappement atteint la vitesse de la lumière, ça veut dire que la lumière elle-même ne peut pas s'échapper, ne peut pas échapper à l'attraction de l'astre. Ça veut dire que cet objet, qu'on appelait à l'époque un astre occlus, cet objet ne peut émettre aucune lumière et par son attraction gravitationnelle, il attire tout, même la lumière précisément. Donc, puisqu'il attire tout, on va beaucoup plus tard l'appeler trou. Et puisqu'il n'émet pas de lumière, on va le qualifier de noir. Ça sera le mot trou noir qui sera donné beaucoup plus tard au XXe siècle par le physicien spécialiste de la gravitation, John Archibald Wheeler.
Et l'horizon, alors ? Qu'est-ce que l'horizon ?
Ah bah, l'horizon, là, on va un peu vite, parce qu'on en est encore simplement au moment de la Révolution française. Et le trou noir, ça n'est qu'une idée. Ça n'est qu'une idée, et cette idée va prendre un peu de la consistance avec la nouvelle théorie de la gravitation que Albert Einstein va mettre au point au XXe siècle, à savoir la relativité générale, dont il va publier les équations en 1915, 1915-1916. Et très rapidement, il y a un physicien allemand qui s'appelle Karl Schwarzschild qui va publier, qui va montrer une solution de cette théorie qui va correspondre à ce qu'on appelle finalement aujourd'hui un trou noir et qui reprend l'idée de Mitchell et de Laplace. Et au début, on n'accorde aucune réalité à cette équation. D'ailleurs, bon, il y a des disputes, si vous voulez, à propos de la réalité de cette équation entre Schwarzschild et Einstein, mais peu importe. Einstein reconnaît la validité du calcul de Schwarzschild, mais son idée, qui est d'ailleurs partagée avec à peu près tous les astronomes de l'époque, c'est que oui, c'est une solution de la relativité générale, mais c'est une solution formelle qui ne décrit rien de concret, rien de réel. Parce que ça serait tellement bizarre, un truc comme ça, que finalement, ça ne doit pas exister dans la nature. C'était ça l'idée. Mais petit à petit, avec les connaissances que l'on acquiert sur la gravitation, sur les étoiles, sur la formation, l'évolution des étoiles, aussi sur la physique quantique parce que ça joue dans la structure d'une étoile, eh bien on en vient à penser que ces objets pourraient exister, pourraient par exemple se former à la fin de l'évolution d'une étoile. Si une étoile est très massive, à un moment donné, son combustible nucléaire va s'épuiser, puisque une étoile, on sait que c'est une espèce de grande usine au sein de laquelle se déroulent des réactions nucléaires. À un moment où les réactions vont s'épuiser, le combustible s'épuise, donc l'étoile va s'effondrer, éventuellement de manière explosive, et dans certaines circonstances, plus rien ne peut s'opposer à l'effondrement. Et il faut pour ça que l'étoile soit suffisamment massive. Et les astronomes, les astrophysiciens de l'époque ont à peu près calculé dans quelles conditions ce genre de choses pouvait se produire. On peut citer le nom de Chandrasekhar, par exemple, mais il y en a d'autres aussi. On s'aperçoit que l'étoile pourrait bien donner naissance à ce qu'on appelle justement, ce qu'on va appeler, je crois que c'est en 1939 que Wheeler donne cette appellation, ce qu'on appelle un trou noir et qui correspond justement à la solution de la relativité générale qu'avait donné Schwarzschild. Et ensuite, les astrophysiciens, les physiciens, théoriciens travaillent sur cette idée et puis ils trouvent des solutions un peu plus compliquées qui permettraient de décrire un trou noir non pas statique, mais un trou noir en rotation, un trou noir avec une charge électrique. Et donc, le concept de trou noir prend un peu naissance, mais il va falloir attendre les années, je pense, 1960-1970, pour s'apercevoir que ça existe vraiment dans la nature.
Oui, alors, depuis quand est-ce qu'on a vraiment commencé à croire à leur existence? D'après ce que vous nous avez expliqué, on voit bien que ce concept de trou noir est apparu progressivement par la réflexion purement théorique et aussi pour interpréter des observations d'astrophysique. Mais finalement, depuis quand a-t-on vraiment commencé à croire à
l'existence? Pour l'interprétation des observations astrophysiques en termes de trou noir, elle ne date que de la seconde moitié du XXe siècle. Et il y a deux manières de mettre en évidence un trou noir. Au début, parce qu'après, on va voir qu'il y en aura d'autres. Mais la première manière, c'est de s'apercevoir qu'il y a un endroit où il y a beaucoup d'étoiles qui vont très très vite et sans qu'on sache ce qui finalement les maintient en orbite. Donc on s'aperçoit que dans un petit volume, c'est par exemple ce qui s'est passé au centre de notre galaxie, on s'aperçoit que dans un volume relativement restreint, il y a beaucoup d'étoiles, qu'elles vont très très vite, donc elles doivent orbiter autour de quelque chose. Mais on voit rien, et donc, puisqu'on voit rien, c'est pas une étoile, c'est pas un amas d'étoiles, donc par élimination, on va se dire, c'est sans doute un trou noir, parce que ça représente beaucoup de masse. Et puis la deuxième circonstance, c'est lorsqu'on a commencé à observer des sources de rayonnement X extrêmement intenses dans la galaxie.
Ça veut dire rayonnement X, il faut préciser.
Rayonnement X. Bah, le rayonnement X, on sait ce que c'est puisqu'on passe des radios tous, mais c'est simplement du rayonnement électromagnétique, mais très énergétique. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a tout un spectre de rayonnement électromagnétique, avec évidemment la lumière visible, mais aussi des rayonnements moins énergétiques comme les infrarouges, les ondes radio, et des rayonnements plus énergétiques comme les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma.
Ah bien, oui.
Et lorsqu'on a commencé à envoyer des satellites qui permettent d'observer des rayons X dans l'espace, parce qu'on ne peut pas les observer depuis la Terre, parce que les rayons X venus de l'espace ne peuvent pas traverser l'atmosphère. Donc lorsqu'on a envoyé ces premiers satellites, on s'est aperçu qu'il y avait dans le ciel des sources de rayonnement X dont on ne connaissait pas la nature, et extrêmement intenses. Bon, je passe sur tous les détails, et on est arrivé à l'idée que ces sources de rayonnement X étaient des trous noirs, non pas que le trou noir lui-même émette du rayonnement, puisque justement il est noir, rien ne peut en sortir, mais que le trou noir, par son intense attraction gravitationnelle, fait tomber sur lui toute la matière qui est autour, et les étoiles qui vont finalement être cassées aussi par les forces de marée du trou noir, et qui vont faire un espèce de mélange de gaz, de poussière, de cailloux, tout ce que vous voulez, qui tombe sur le trou noir avec une énergie énorme, et une énergie tellement énorme que tout ça est chauffé à des températures gigantesque, et voilà la source du rayonnement X. Et on pense que tout ça va se mettre sous forme d'un disque qui tourne autour du trou noir en tombant. On appelle ça un disque d'accrétion. Et donc l'idée, c'est que ces sources de rayonnement très énergétiques sont des disques d'accrétion autour de trous noirs.
Alors, maintenant, Marc Lachaiserey, les astrophysiciens ont mis en évidence un très grand nombre de trous noirs dans le cosmos. On pense qu'il y en a pratiquement dans toutes les galaxies. Enfin, on n'est pas sûr, mais on pense. Depuis des extrêmement gros, qu'on appelle supermassifs, avec des masses, alors vous allez pouvoir nous le dire, mais qui vont jusqu'à, je crois, des centaines de millions de masses solaires, c'est-à-dire énormes, jusqu'à des beaucoup plus petits de quelques masses solaires. Alors, comment se situe celui qu'on a vu récemment, puisque c'est quand même l'actualité qui vaut cette invitation à la radio? On vient d'en voir un dans notre galaxie, et puis on en avait vu un dans une galaxie pas très lointaine, mais pas la nôtre, il y a 2 ans, avec des magnifiques images hein, qui ont beaucoup frappé le public. Alors, comment se situe celui qui est dans notre galaxie? C'est un très gros ou un très petit?
Alors, c'est un très gros. Il faut donc savoir, oui, qu'il y a deux catégories de trous noirs, ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui en gros résultent de l'explosion d'une étoile et dont la masse est de l'ordre de quelques masses solaires, la dizaine, la vingtaine, la trentaine peut-être, et qui résultent donc de la fin de l'évolution d'une étoile. Et puis les trous noirs supermassifs, qui sont au centre des galaxies comme la nôtre, dont certains sont actifs, c'est-à-dire qu'ils attirent de la matière qui elle-même émet du rayonnement très intense, et c'est ce qu'on appelle les quasars, et quelques autres sont inactifs, comme celui de notre galaxie. Et on l'observe quand même en rayonnement radio. Donc chaque galaxie, pensent aujourd'hui les astronomes, abrite en son cœur un trou noir supermassif. Et récemment, il y a eu effectivement 2 observations. L'observation du trou noir supermassif de la galaxie Messier 87, qui est une énorme galaxie au centre de l'amas de la Vierge, qui est un amas qui rassemble un grand nombre de galaxies, un amas de galaxies, et puis celui qui est au centre de notre propre galaxie, que l'on appelle Sagittarius A.
Comment a été fait cette superbe image du trou noir dans notre Voie lactée?
Alors,
c'est ça qu'on aimerait savoir.
Alors, c'est quelque chose de très très compliqué et de très très indirect. Bon, d'abord, le trou noir de notre galaxie, il fait à peu près, il fait 4 millions de masses solaires, alors que celui de Messier 87, c'était plutôt des milliards de masses solaires. Et sa distance, c'est 20 000 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière, qui est ce qu'il y a de plus rapide, met 20 000 ans pour venir de là-bas. Bon, donc c'est assez loin et c'est très massif. Et si on veut le regarder, ça représente des échelles très petites. Alors, on n'a pas encore parlé de l'horizon du trou noir, mais si vous voulez, l'horizon du trou noir, c'est ce qui, pour l'extérieur, représente la limite, le bord du trou noir, parce que c'est la zone à partir de laquelle rien ne sort. Rien ne sort du trou noir. Donc, on dit que ça va être la taille du trou noir, finalement. Et la taille du trou noir, on la voit sous un angle extrêmement petit, bien inférieur à ce que permettent de voir les télescopes. Donc, il n'y a aucun moyen de faire une photo directe de la région du trou noir. Il faut utiliser des techniques extrêmement sophistiquées, comme ce qu'on appelle, enfin, de l'interférométrie.
Oui. Et ça implique une coopération mondiale.
Alors, absolument.
Parlez-nous de la coopération mondiale. Ça nous donne un peu d'espoir, quand même.
On est en radio. Et c'est une conjonction de radiotélescopes qui sont répartis sur toute la surface du globe, sur des milliers de kilomètres, qui permettent de faire de l'interférométrie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une image, mais on a une collection de résultats d'interférométrie à partir desquels on reconstitue l'image. En plus, on est obligé de faire des pauses assez courtes, mais il faut en faire beaucoup, on va reconstruire tout ça. Donc, on reconstruit un très grand nombre d'images qui elles-mêmes sont des reconstructions de données interférométriques, et on arrive comme ça à reconstruire une image qui n'est pas du tout directe, mais une image de l'environnement du trou noir. Et ce que ça donne, vous l'avez peut-être vu dans vos magazines, c'est une tache très brillante avec au centre une tache noire, on pourrait dire, qui est finalement l'ombre du trou noir, qui est l'ombre de l'horizon du trou noir, puisque rien n'en sort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette image, c'est quelque chose qui est en fait très compliqué, parce que ce qu'on voit, c'est la lumière qui vient d'un disque, mais il faut comprendre que les rayons lumineux ne nous arrivent pas directement du disque en ligne droite, puisque l'espace-temps est extrêmement courbé. Donc on voit des rayons lumineux qui arrivent à peu près tout droit, mais on voit aussi des rayons lumineux qui ont fait un tour du trou noir ou deux tours du trou noir, etc. C'est une image extrêmement compliquée à analyser.
Et qu'on pourra retrouver sur le site de l'Union rationaliste, auquel je renvoie les auditeurs de France Culture. Je remercie Luc Jean Reynaud et Lucas Finet qui ont rendu possible cette émission, et je signale trois choses concernant l'actualité de l'Union rationaliste. D'abord, le 18 octobre, à l'Institut d'astrophysique de Paris, Daniel Kunt recevra Stéphanie Ruffi, professeur des universités et épistémologue, pour une conférence intitulée « Maintenir la confiance, quels nouveaux enjeux pour le monde de la recherche ?» Puis en novembre, le 16 et le 19, nous aurons l'honneur, le 16 novembre, de remettre le prix de l'Union rationaliste à François Héran et Cédric Héroux pour leurs contributions respectives à une France plus accueillante et plus juste envers les étrangers. Et le samedi 19 novembre, de 9h30 à 17h30, à la salle du sein de l'École normale supérieure, aura lieu le colloque de l'Union rationaliste, colloque 2022 sur la fabrique de l'opinion. J'invite tous les auditeurs de France Culture qui voudraient rejoindre notre combat à venir sur le site de l'Union rationaliste et à ces différents événements qu'ils pourront y retrouver. Et je vous dis au mois prochain.